Alors Julien, tu t'es intéressé au mouvement de grève qui touche les sapeurs-pompiers en France et aussi dans le département.
Exactement, depuis le 26 juin dernier, un mouvement de grève traverse une partie des sapeurs-pompiers français à l'appel de 7 des 9 syndicats des pompiers professionnels. Initialement prévu jusqu'au 31 août dernier, le mouvement a été reconduit jusqu'à la fin octobre. L'objectif, exprimer leur ras-le-bol. J'ai rencontré Jean-Michel Boitelet, sapeur-pompier professionnel sur Rennes notamment, et vice-président du syndicat autonome, le syndicat majoritaire des sapeurs-pompiers professionnels du S10-35. Auprès de lui, j'ai voulu connaître leur situation et les problèmes auxquels ils sont confrontés.
Les problèmes sont multiples. On a un problème de reconnaissance comme métier à risque. On demande une revalorisation de notre prime qu'on appelle nous de feu, mais qui est liée au risque du métier, à hauteur de ce que peuvent toucher nos collègues de la police nationale. Entre autres, les 28%, nous on est qu'à 19% et ça n'a pas changé depuis 1990.
Un manque de reconnaissance donc. J'ai rencontré Jean-Luc Chenu, président du conseil départemental et aussi président du S10-35, le service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine, afin de le confronter aux réponses de ce sapeur-pompier professionnel de Rennes.
Je pense que la reconnaissance morale, ça se traduit aussi par des actes au quotidien, un mode de management extrêmement, de proximité, une attention portée immédiatement à tout sapeur-pompier, par exemple, victime d'une agression, avec un protocole extrêmement sécurisé, intervention d'avocat, intervention de psychologue, visite d'officiers supérieurs, vraiment systématiquement et sans discussion. Et moi, pour ces attentions-là, que celle-là, on est dans le très concret, je pense dire qu'on essaye de faire au mieux possible les missions qui sont les nôtres et de marquer cette attention. Sur les questions de reconnaissance, si on veut parler indemnité, moi, je constate quand même que dans l'ensemble des filières de la fonction publique, le statut des sapeurs-pompiers n'est pas un statut défavorisé. Il y a un niveau de prime qui correspondent bien sûr à des risques, mais ces primes-là sont significatives dans les rémunérations. Nous avons aussi des possibilités de déroulement de carrière qui sont assez importantes. On a un taux d'encadrement significatif en Ille-et-Vilaine. Alors je sais qu'il y avait eu il y a trois ans un conflit. On me demandait de promouvoir 170 adjudants en deux ans. C'était déraisonnable. Dans tout corps, il faut un pyramidage cohérent, mais par rapport à tous les indicateurs, nous sommes plutôt au-dessus de la moyenne nationale de ce point de vue-là. Et puis, il y a aussi, je dirais, des mesures de compensation. Quand on est de garde, quand on effectue des gardes, on a des temps aussi de récupération, ce qui est bien naturel, mais on ne peut pas parler que des contraintes sans parler des contreparties qui existent, y compris si on regarde la prise de risque, le nombre de victimes dans l'exercice. C'est pas tout à fait comparable non plus, mais qu'objectivement, le niveau de ces primes est important aujourd'hui. Il y a bien des grades où on est à 40%, voire plus, de primes diverses par rapport à la notion de risque. Donc il ne me semble pas qu'on soit dans une fonction déséquilibrée.
Rappelons que le département est le premier financeur du S10-35 avec près de 32 millions d'euros apportés chaque année par la collectivité. La sursollicitation des pompiers, est l'une des revendications, surtout nationales, des sapeurs-pompiers professionnels. Jean-Michel Boitelet nous répond.
On s'aperçoit que nos collègues du 15, donc du SAMU, n'ont pas parfois d'autres solutions que d'envoyer les sapeurs-pompiers sur certaines missions qui ne nous incombent pas. Pourquoi ? Parce que les déserts médicaux qui peuvent s'exercer en campagne mais aussi en ville, les gens n'ont plus de réponse médicale. Et donc, lorsqu'ils font le 15, le 15 n'ayant pas de réponse médicale à leur apporter ou pas de possibilité de leur envoyer une ambulance privée, se rabattent sur les sapeurs-pompiers pour, pour les transporter, alors que leur cas ne nécessite pas forcément un transport aux urgences. Donc on nous demande de les transporter aux urgences, qui encombrent les urgences, et je pense que les urgences ont déjà beaucoup de choses à gérer. Voilà, donc nous, on a l'impression d'être sursollicités par période. Alors c'est pas quotidien, c'est pas tous les jours au sein de notre département, mais dans d'autres départements français, il n'est pas rare de voir les gens qui attendent les pompiers avec leurs valises, simplement comme on attendrait un taxi, quoi.
Un problème de sursollicitation donc, couplé à un problème de manque de moyens dans certains cas, en tout cas pas en Ille-et-Vilaine, selon Jean-Luc Chenu.
Bon, je pense qu'il y a des éléments nationaux et des éléments locaux. Je dirais que je ne suis pas d'accord, je suis même en désaccord avec un certain nombre d'expressions de revendications, par exemple sur ce qui concerne les moyens alloués. Je veux dire, nous avons des effectifs importants en Ille-et-Vilaine, 650 pompiers professionnels, 3050 à peu près pompiers volontaires. L'évolution de l'activité, bien, je dirais, c'est peut-être propre à l'Ille-et-Vilaine, mais c'est une réalité. Nous avons l'an dernier 1000 interventions secours à personne de moins que l'année précédente. Et cette année, sur les 9 premiers mois, on aurait encore au moins 1500 interventions de moins au titre du secours à personne que l'année précédente aussi. Objectivement, moi je pense qu'il y a les choses telles qu'on les dit, mais il y a la réalité, vraiment. Et chaque intervention, il n'y a pas de litige sur la façon de compter. C'est parfaitement quantifié, c'est homogène d'une année sur l'autre, c'est tout à fait contrôlable. Nous aurons sans doute 2000 interventions de moins et on devrait sans doute repasser en dessous des 50 000 interventions, alors qu'on était monté à plus de 52 000 il y a 3 ans.
En termes de rémunération et de temps de travail, tout n'est pas totalement tout à fait clair non plus. Je m'explique. En juin dernier, Jean-Luc Chenu, en qualité de président du SDIS 35, a évoqué le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels et notamment les 94 jours de travail par an. Des propos qui avaient mis en rogne les pompiers pour qui le comptage ne reflétait pas exactement la réalité.
Alors le président Chenu, bon, même si on sait que c'est un excellent comptable, il a quand même oublié de dire que sur ces 94 jours, c'était 94 gardes de 24 heures, ce qui fait un total de 2256 heures par an de présentiel pour les sapeurs-pompiers qui sont en 24 heures. Donc 2256 heures rémunérées à hauteur de 1607 heures, voilà, je vous laisse faire la différence, hein, on fait cadeau du reste. Donc avant de dire que les pompiers travaillent 94 jours, voilà, je pense que les gens ne sont pas dupes, mais il est temps pour nous aussi de leur expliquer que les pompiers effectivement travaillent 94 jours, mais 94 fois 24 heures, soit 2256 heures par an au lieu des 1607, les 35 heures.
Un dialogue compliqué donc entre le corps des pompiers professionnels et le service départemental. Pour Jean-Luc Chenu, ces propos reflètent la réalité des choses et il ne devrait pas y avoir une quelconque polémique là-dessus.
Je ne comprends pas qu'on se braque, je ne dis que quelque chose de factuel. S'ils faisaient 150 jours, je dirais qu'ils font 150 jours. La réalité, c'est 94. Bon, alors je veux bien qu'on ne dise pas les choses. Je dis que c'est logique quand on est sur des gardes de 24 heures d'avoir des temps de récupération, des temps de repos, mais c'est une réalité aussi et peut-être qu'il faut aussi qu'on le dise plus largement à nos concitoyens pour qu'on mesure aussi vraiment les avantages et les inconvénients. Parce que, alors c'est toujours plus facile de dire « oui, vous avez raison ». Je pense qu'il faut être rigoureux aussi dans la gestion des moyens publics. Le financement d'un service départemental d'incendie et de secours, ce sont les contribuables. Il n'y a pas de mystère là-dessus. C'est bien l'argent des contribuables, que ce soit de la commune ou du département, mais qui sont les mêmes in fine, parce qu'on paye un peu au département, on paye un peu à sa commune. Donc on doit avoir une gestion raisonnable et maîtrisée aussi des moyens mis en place. Et le temps de travail, c'est 94 gardes, si on est en garde de 24 heures par an. Donc non, je ne dirais pas autre chose que ça. Tous les dispositifs où on est en mode de garde, jamais on ne compte une heure de garde pour une heure de travail effectif. Parce qu'à ce moment-là, on peut regarder dans une garde comment elle se décompose, mais personne n'osera dire qu'une garde de 24 heures, c'est 24 heures de travail effectif. C'est 24 heures de présence sur un site, mais ce n'est pas du... Il y a du temps de repos, il y a du temps d'intervention, il y a du temps de formation, il y a du temps pour l'éducation physique, enfin, voilà. Mais ce n'est pas 24 heures... D'ailleurs... le temps de repos sur site, on aménage aussi des dortoirs dans les casernes pour permettre d'assurer les gardes et d'avoir ces temps de repos avec des équipes qui sont en rotation.
Qui plus est pour M. Chenu en ce qui concerne la rémunération, c'est le contrat de départ de tout sapeur-pompier qui s'engage.
Il sait que son mode d'organisation du temps, il est ainsi fait. Bon, très clairement, s'il fallait rentrer dans ce raisonnement-là, ça voudrait dire augmenter de 40% les effectifs. C'est infinançable, c'est totalement déraisonnable. Ça n'existe nulle part ailleurs de compter une heure de garde pour une heure de travail effectif. Donc, non, quand on s'engage dans un service, on connaît les avantages et les inconvénients. On sait les modes d'organisation. On peut être en mode de garde de 12 heures également. C'est le cas dans d'autres. Certaines casernes en Ille-et-Vilaine ne sont pas en 24 heures. Mais je le redis, on ne peut pas avoir les avantages et sans aucune contrainte. Il y a un certain nombre de contraintes, mais quand on regarde aussi quand même les rémunérations des sapeurs-pompiers, elles sont correctes.
J'ai voulu savoir également si, hors intervention, une forme de médiation était mise en place pour tenter d'aller à la rencontre de la population et de dialoguer avec elle.
Écoutez, à ma connaissance, non. Néanmoins, nous, organisation syndicale représentative, on est bien conscient et on répondra présent si on est sollicité pour aller à la rencontre d'associations ou de jeunes de quartiers défavorisés pour pouvoir essayer de crever l'abcès et puis leur expliquer qu'on n'est pas là pour les embêter, mais bien pour leur porter secours à eux et à leur famille au quotidien, quoi.
J'ai évidemment demandé à M. Chenu, président du SDIS 35, si des dispositifs existaient et voici sa réponse.
Mobiliser les pompiers pour du dialogue directement avec des habitants dans des quartiers difficiles, c'est encore une autre mission. Mais là, je pense que ce n'est pas directement dans nos compétences. On peut être en appui d'initiatives qui relèvent notamment des maires et de l'État, préfet ou préfète en l'occurrence, qui pourraient porter des... Mais il faut le faire avec les policiers, il faut le faire avec les gendarmes. On ne peut pas spontanément, ce n'est pas dans nos missions. On peut être en appui, on peut être dans l'accompagnement, mais je suis pas sûr d'ailleurs que les sapeurs-pompiers comprendraient qu'on leur demande d'aller en première ligne sur ce type de mission de médiation. Nous, on est toujours ouverts à toute action permettant d'expliquer les missions d'un service départemental, les missions des sapeurs-pompiers, mais il faut trouver le cadre et je ne pense pas que le SDIS puisse dire nous ne sommes pas en charge, par exemple, de la notion de politique de la ville. Moi, je suis très respectueux des compétences des uns et des autres. Ces discussions-là se font dans le cadre de protocoles, notamment les contrats locaux de sécurité, par exemple. Mais s'il y avait des sollicitations, bien sûr que nous répondrions présents. Mais là, ça relève vraiment d'abord des maires et de l'autorité préfectorale. Mais si des démarches se développent, le SDIS s'inscrira, bien sûr, dans la démarche.
Alors, soutien du département, ou compétences des communes, ou compétences de l'État, enfin, toujours est-il que tout le monde semble se rejeter la patate chaude. J'ai proposé à M. Chenu de dire un dernier mot pour ces pompiers en colère.
D'abord, on parle d'une grève, c'est un peu particulier. Il n'y a pas de mouvement massif de grève en Ille-et-Vilaine. On se déclare en grève, bon, mais comme le service est assuré, il n'y a pas de retenue sur salaire. J'irai très clairement, on peut être en grève pendant 6 mois, pendant 1 an. Ça ne change pas. Donc après, je n'ai pas du tout le sentiment qu'on est dans un mouvement qui soit massivement suivi aujourd'hui. Il y a des problématiques qui sont des problématiques nationales, mais là, ça ne dépend pas de l'organisation locale. Moi, ce que je peux dire, c'est que localement, nous sommes certainement un des départements en France, et ça, on peut le démontrer, qui investit le plus dans les conditions de travail, dans le matériel, dans les casernes, et que le niveau d'encadrement des effectifs, des déroulements de carrière, il est correct. Alors, je sais que parfois, il y a la tradition de toujours demander plus. À un moment donné, je dois avoir des arbitrages cohérents aussi par rapport à l'ensemble des filières, des fonctionnaires du département, la filière administrative, la filière technique. Je pense qu'il faut rester raisonnable.
Bien évidemment, ce mouvement de grève est avant tout symbolique, comme a pu l'évoquer Jean-Luc Chenu, avant tout, car les pompiers ont une obligation d'assurer un service minimum. Vous l'aurez compris, la situation est plutôt tendue et même si le dialogue est ouvert pour le moment, bah, ça patine encore. L'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels se sont donné rendez-vous le 15 octobre à Paris pour une manifestation nationale à l'appel de tous les syndicats français des sapeurs-pompiers professionnels. Cette interview est à retrouver en podcast sur le site de SILAB, www.c-lab.fr.